Ce livre-là, il a donc un statut à part. C'est vrai qu'il appartient au Sefer Torah, mais par opposition aux quatre premiers Sfarim, ici c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Sa présence, c'était Hachem qui parlait par l'entremise de Moshe. Et maintenant, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui parle. Et tout ce livre-là, tout ce Sefer-là, il est daté en quelque sorte. On va voir plus loin, vous pouvez regarder tout de suite si vous voulez, au verset 3, « Vayi be'arba'im shana, be'ashti asar chodesh, be'echad la chodesh. » Voilà, ici on est dans la dernière année, le dernier mois de la vie de Moshe Rabbeinu. Donc tout ça, ça se déroule, tout le Sefer ici, il se déroule en très peu de temps. C'est un peu comme un testament de Moshe Rabbeinu. On verra comment c'est structuré un peu. Alors c'est un statut un peu à part. Il y a certaines règles, en particulier, comme on dit, d'herméneutique, qui sont différentes dans les quatre livres et dans le cinquième. Pas beaucoup, mais il y en a. Et alors, curieusement, le texte commence, Ele hadvarim asher diber Moshe, El kol Israël. Voici les paroles que Moshe a dites Obnei Israël. Or, on va voir qu'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas vraiment de paroles qui sont adressées au Bnei Israël comme telles, comme paroles, en fait. Et du coup, le mot Dvarim, Rashi dit, Le fils Shehen divrei tochachot. Ce sont des paroles de tochachot. En fait, ces paroles sont des remontrances. Et pourquoi? Parce que Rashi le ramène. Hazal disent, si on veut bien lire le premier verset, le verset dit. Donc, Advarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, Be'ever Hayarden, Bamidbar, Ba'arava, Molshuv, Ben Parag, Ben Tophel, Ve'Lavan, Ve'Hatserot, Ve'Dizahav. Quand on lit ce verset, on a l'impression que ce sont des paroles qui ont été dites par Moshe à certains moments, ou dans certains lieux. On avait à la liste des lieux. Hazal disent qu'on a regardé dans tout le Tanakh et on a trouvé nulle part un lieu qui s'appelle Tophel ou Lavan. Certains Molshouf, on peut dire, c'est en face de, au moment du passage de la mer, etc. Mais il y a de certains termes d'Isaav, etc. Dans tout le Tanakh, il n'y a pas de lieu qui s'appelle comme ça. Donc on peut pas lire ici que voici les paroles que Moshe a dites lors de ce passage ou à tel ou tel endroit. Je ne peux pas dire une chose pareille parce qu'il n'y a pas de lieu de ce genre-là. Bon, on va essayer d'ouvrir la porte. Qui s'appelle comme ça. Donc on est obligé de donner un autre sens au mot dvarim. Et c'est pour ça que Rashi dit, ce sont des divrei tochachot, ce sont des remontrances. Comme dit Rashi, mana kan kolam komot sheichisu lefi lifnei hamakom, bahen donc lefichach. Satam et Advarim, Yizkiran beremez ibne kvodan chez l'Israël. Alors, ces endroits-là sont pas des endroits où Moshe a parlé, mais c'est en fait des mots-clés, qui font référence à tous les endroits, toutes les occasions où les Bnei Israël ont mis Hachem en colère. Et c'est dit de façon allusive, remez, pour ne pas accabler les Bnei Israël. Pas voulu leur dire en toutes lettres à chaque fois, voilà, vous avez fait ça et ça et ça et ça. Il a dit les choses beremez. Ça veut dire, non, c'est beremez de façon allusive. Alors, il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui comprennent pas, mais tant pis, ceux qui ne veulent pas comprendre, ou qui comprennent pas, ils comprennent pas. Alors, sur cette idée qu'il faut pas le dire de façon trop explicite, il y a un petit problème, c'est que plus bas, on va expliciter la faute du Vaudor et on va expliciter les Meraglim. Pourquoi est-ce qu'on s'est permis d'expliciter? Puisqu'on vient de dire que. Alors, il faut expliquer que quand on traite les choses séparément, le Hegel séparément, les Meraglim séparément, on peut entrer dans plus de détails. La raison pour laquelle ici on n'est pas entré dans le détail, c'est parce que on est en train de dire toutes les fautes en même temps. Si tu entres dans tous les détails de toutes les fautes, c'est trop lourd à supporter. Mais une faute en particulier, séparément, étudier séparément enfin dire séparément ce qu'il en est du Vaudor, séparément ce qu'il en est des Meraglim, des explorateurs, ça c'est possible. Et donc, mon cher Rabbeinu leur rappelle tous les endroits où ils ont mis Hachem en colère. Sur la Torah. Visiblement, le Chazal se demande est-ce que c'est vraiment de sa propre initiative que Moshe leur fait ces remontrances? D'une certaine manière, pourquoi? Alors, les Chazal disent que c'est vrai que c'est l'initiative de Moshe, mais il a demandé, on voit dans le Midrash, il a demandé l'accord d'Hachem. Donc les remontrances qu'il leur fait sont des remontrances qu'il leur fait avec l'accord d'Hachem. Alors, on a déjà dit souvent que remontrance, ça ne veut pas dire reproche, n'est-ce pas? Remontrance, il faut l'entendre vraiment, presque étymologiquement, c'est montrer à nouveau. Le mot tochacha en hébreu, c'est le mot ochacha qui est utilisé pour une démonstration mathématique. On va vous remontrer ce que vous semblez avoir oublié, etc. Alors, il faut le leur remontrer, d'abord parce qu'il faut qu'ils fassent tchouva, c'est fondamental. Et puis, Hachem va dire à Moshe, on voit ça dans le Midrash, va lui dire, puisque tu leur as fait les remontrances, et qu'ils ont accepté les remontrances, alors maintenant tu dois les bénir. Il doit leur donner une bénédiction. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va effectivement les bénir. Pourquoi est-ce qu'il faut bénir? Parce qu'ils ont accepté les remontrances. C'est parce que quand on leur a remontré les endroits où effectivement ils ont mal agi, quelque part, même si c'est dit de façon allusive, ça, ils ont pris des coups, quoi. Ils ont pris toutes ces remarques, remontrances. Et comme ils acceptent vraiment, quelque part, ils sont un peu groggy, un peu, ils sont mal à l'aise. Il faut leur redonner de l'énergie. Donc la bracha, par définition, la bracha s'est construite sur la notion baruch. Et baruch, ça veut dire amplifier, on a déjà dit. Donc il s'agit d'amplifier leur qualité. Et c'est pour ça que les brachot, c'est pas simplement qu'on dit à quelqu'un, voilà, béni, sois béni, etc. Qu'est-ce que c'est que le grand exemple des brachot, ce sont les brachot donnés d'abord par Yaakov Avinu à ses enfants, et ensuite celle de Moshe Rabbeinu. Mais quand Yaakov Avinu a donné sa bracha à ses enfants, il leur a dit des choses assez énormes. Bon, il leur a dit des choses très dures hein, encore. Et il a dit des choses à certains dont on a du mal à les classer comme des brachot. Donc, il dit sur Shimon et Lévi, je veux rien avoir à faire avec eux, etc. C'est difficile d'entendre là une bracha. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette amplification que, par le biais de la bracha, si vous voulez, elle ne peut pas porter sur quelque chose qui n'existe pas chez quelqu'un. On ne peut pas donner une bracha à quelqu'un auquel il manque une mida du tout, pas développée du tout une certaine mida, ne pas lui donner une bracha sur cette mida-là. Pour la bonne raison que amplifier, c'est comme une multiplication, et si vous multipliez zéro par tout ce que vous voulez, ça donne pas grand-chose. Donc il suffit, il faut qu'il y ait, ça peut être très très petit, mais il faut, pour donner une bracha, il faut que la bracha, elle soit chale, elle saisisse quelque chose de concret et qu'elle l'amplifie. Mais s'il y a, y a pas de, y a rien pour s'accrocher en quelque sorte, ça peut pas marcher. Et donc, la plus grande bracha qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de lui dire qui il est et où est sa place. À ce moment-là, on lui dit comment il peut s'épanouir. Et à ce moment, ça a du sens de dire, de lui souhaiter, de l'aider à s'épanouir dans ce qui est sa caractéristique. Cette idée que il soit fondamental de savoir qui on est et du coup de savoir quelle est ma place dans la société, quelle est ma place dans le clan Israël, c'est tellement fondamental qu'on est presque tenu à l'impossible, dans la mesure où Shlomo HaMelech, il dit, Chanoch la nahar al pi darko. Il dit, tu dois éduquer un enfant, le nahar c'est un enfant, selon sa voie à lui. Et comment tu sais quelle est la voie de l'enfant? T'as un petit enfant, il a 2 ans, je sais pas. 1 an, 2 ans, il faut l'éduquer, il faut le mettre tout de suite sur les bons rails. Mais les bons rails, c'est Darko, son derrière à lui, pas le derrière de son père ou de sa mère, son derrière à lui. Et donc ça veut dire on est obligé d'imaginer une recherche sérieuse de la part des parents au début, puis ensuite des autres éducateurs, etc., tous les gens qui sont susceptible d'aider quelqu'un à se développer, une recherche pour l'aider à trouver qui il est et quelle est enfin, sa spécificité, enfin, quelle est la mida ou les midot dans lesquelles il peut exceller. On ne peut pas exceller dans tout, mais si on excelle dans ce qui nous concerne vraiment, ben c'est parfait. Ça va faire monter tout l'édifice en réalité. Donc, les parents ont une obligation, donc c'est difficile d'imaginer comment on s'acquitte vraiment de cette obligation. C'est-à-dire d'essayer de savoir quel est le derrière de l'enfant, du petit enfant. après, au fur et à mesure. Et il ne s'agit pas du tout de mettre un enfant sur la voie de ses parents. Il faut le mettre sur sa voie à lui, dit Shlomo HaMelech. Donc on voit que dès le départ, la bracha, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour un enfant? Ben le mettre sur la bonne voie, sur la voie qui correspond à ce qu'il est, l'aider à développer ce qu'il est. Alors, bien sûr, ce sont des choses relativement compliquées parce que on voit un peu dans on a vu dans la Gemara que au départ l'éducation telle qu'elle est vue dans la Torah au départ, c'est l'éducation que le père doit donner à son fils. Donc c'est le père. Donc quelque part, c'est une éducation d'abord qui est personnalisée. Bon, et notre système à nous, où on a des classes d'enfants, c'est un pis-aller. C'est fait parce que les pères ne peuvent pas, ou bien parce que tout le monde n'a pas un père, ou bien parce que, effectivement, comme on voit dans la Gemara, et des fois les pères ne sont pas à la hauteur, ils sont pas capables d'enseigner à leur enfant. Alors donc, on a installé des hadarim avec des madame de tinokot, etc. Mais en vérité, c'est un pis-aller. Ça a sauvé la situation, mais c'est un pis-aller parce qu'on n'a pas mieux. Et c'est faute de mieux. Mais en théorie, il faudrait un précepteur pour chaque enfant. C'est beaucoup. Et ça, on ne l'a pas. Mais c'est sûr que c'est un défaut. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison qu'on trouve le dénominateur commun de toute une classe pour enseigner à chacun ce qu'il lui faut, quoi. Donc on va faire quelque chose et on va choisir comme on dit en français moyen, c'est-à-dire le truc qui n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas le français moyen. Enfin, peut-être qu'il existe. Mais donc ça n'existe pas vraiment, mais on va choisir un élève moyen, mais peut-être on va le choisir un peu trop haut ou un peu trop bas. Il va y avoir un nivellement. En général, c'est par le bas. Donc il y a des gens qui vont s'embêter à 100 sous de l'heure dans la classe. Qui vont devenir très souvent insupportables parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont compris la première fois que le prof ou le rebbe a dit la chose, et puis que vu les autres enfants, il faut le répéter 5 fois ou 6 fois ou 10 fois. Qu'est-ce qui fait l'enfant qui avait compris tout de suite? Qu'est-ce qu'il fait? S'embête, s'ennuie. Mais on sait pas quoi faire. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est aider quelqu'un, c'est la seule façon d'aider vraiment quelqu'un, c'est l'aider à être ce qu'il est réellement, à pouvoir vraiment développer ses véritables qualités. C'est intéressant que Moshe Rabbeinu nous va faire bon, tout un discours. Enfin, au Israël, et il commence par les inciter à faire tchouva, parce qu'il leur rapporte les endroits où ils sont mal conduits. Donc ça veut dire que pour pouvoir construire, il faut être conscient des fautes qu'on a faites pour réparer. C'est normal de faire des fautes, mais il faut réparer. Dans le passage, c'est marqué Shevaï Paul Sadik. Le tzaddik qui se casse la figure 7 fois. Ils disent que c'est en général beaucoup plus que 7. Mais on se casse la figure. Mais l'important, c'est de se relever. L'important, c'est de se relever. Casser la figure, c'est normal. C'est impossible de pas trébucher. Il faut se relever. faut essayer de se relever et tirer des conclusions du fait que, ah, ici, si je prends ce chemin-là, je me casse la figure. C'est pas celui-là qu'il faut prendre. Donc, il va les inciter pour qu'ils puissent entendre ce qu'il va leur dire, pour qu'ils puissent bénéficier de la bracha qu'il va leur donner. Il faut qu'ils se mettent en situation. Et la mise en situation commence par justement le rappel des fautes qui ont été commises pour faire tchouva. Bon. Alors, au passouk Guimel, on a déjà vu le passouk, c'est le passouk qui dit que, il donne la date. Il dit, on est dans la 40e année, etc., dans le dernier mois, etc. Et le passouk dit que Moshe, Diber Moshe, El Kol Israël, El Bnei Israël, que Kol Asher, Siva Oto Alehem leur dit tout ce que, en fait, Hachem leur avait ordonné, tout ce que Hachem avait ordonné au Bnei Israël par l'entremise de Moshe Rabbeinu. Et la grande question qu'il y a ici, il faut regarder Rashi. Regardez Rashi sur ce verset-là. Rashi sur le guillemets. Vaïb arvaïm shana b'acheté asar chodesh b'echad chodesh. Regardez ce que dit Rashi. Melamed shelo ochichan. Et là, ça moucle le mita. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que comme c'est la dernière année de la, dernier mois de la vie de Moshe, Moshe, ici, on voit qu'il leur a fait des remontrances seulement au dernier jour de sa, enfin, juste avant son décès. C'est un peu compliqué. Il leur parle de fautes qu'ils ont commises il y a 40 ans. Le veau d'or ou des choses comme ça s'est fait, c'est pas d'hier, c'est bien d'avant-hier. Comment ça se fait que Moshe ne leur a pas fait des remontrances, c'est-à-dire il n'a pas aidé à faire tchouva, parce qu'il ne leur a pas fait des remontrances, tout de suite après la faute. Alors, vous avez fait une faute, c'est bon, voilà. Non, on ne voit pas. Il a attendu pour faire les remontrances. Il a attendu d'être à la veille de son décès. Alors, comme c'est pas logique, alors la question est, Rachid dit, lisez les mots suivants de Rachid. Rachid demande, d'où est-ce que Moshe a appris? Si Moshe a fait comme ça, alors que c'est pas logique, ça veut dire qu'il a appris, c'est comme ça qu'il fallait faire. Et de qui a-t-il appris? Il a appris de Yaakov. Yaakov aussi, il a fait la même chose. Yaakov aussi, les bras qu'il donne à ses enfants, c'est aussi tout à la fin de sa vie. Mais pourquoi il a attendu si longtemps? Alors, Rachid nous rapporte tout ça. Regardez Rachid. Il a mis l'amad, mis Yaakov. Il a appris de Yaakov. Chez Banav, et là, ça moucle le mita, qui n'a fait de remontrance à ses fils que juste à Amar. Alors, Jacob, il donne une explication sur le fait qu'il, lui, il a attendu si longtemps. Il a attendu jusqu'à sa mort. Il dit, Reuven béni, Reuven mon fils. Reuven, c'est son fils aîné. Vous vous souvenez, la bracha qu'il donne à Reuven, c'est tu es le fils aîné. En tant que fils aîné, tu aurais dû être roi, tu aurais dû être Kohen Gadol, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, et tu aurais dû avoir la double part. Donc, un aîné. Hein. Et ce que Yaakov dit à Reuven, je t'enlève tout ça. Je t'enlève tout. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup trop impulsif. En d'autres termes, Yaakov dit à Reuven, si tu es roi, ou si tu es Kohen Gadol, c'est un danger public. As trop de pouvoir. C'est trop de pouvoir pour quelqu'un qui est impulsif. Avec ton impulsivité, on va se retrouver en guerre, on va se retrouver dans toutes sortes de situations impossibles parce que tu es trop impulsif. Donc je t'enlève tout ça. C'est considéré comme une bracha parce qu'on lui dit, si tu vas dans cette si on donnait ce à quoi, a priori, tu as droit, ce serait absolument tragique pour le clan d'Israël et pour toi aussi. Mais, continuons Rachid, il lui dit, Rouven Beni, Ani Omer Lecha, Mipnema Lo Uchtachik, Ochartika Kol Shanim Alalu. Je te dis maintenant pourquoi. Je ne t'ai pas fait de tohaha, je ne t'ai pas fait de remontrance pendant toutes ces années. C'est qu'aider afin que, shelo tanicheni, pour que tu ne m'abandonnes pas, v'telech v'tidbak v'esavachi. De crainte que tu m'abandonnes donc, et que tu ailles, et que tu te colles à mon frère Esav. Yaakov, il sait que ce qu'il va dire à Reuven, c'est tellement énorme qu'il recherche, il a une crainte. Et Reuven, il va se dire, mais on m'enlève tout, je suis le Bechor, et mon père, il m'enlève tout. C'est fondé. Il aurait pu. Yaakov craint que Reuven se dise, c'est pas juste. Et si c'est pas juste, bon, ben, je vais pas rester avec mon père. Je vais aller chez Essav. Petite bac, tu vas coller à Essav. Vous allez faire l'association des prorotes lésés par d'autres. Essav aussi, il a été lésé par son fils, par son frère Jacob. Rouven est aussi lésé par ce même Jacob. Ici. Ils vont faire une association. Peut-être qu'ils arriveront à mobiliser d'autres gens aussi. Donc, Yaakov craint ça. Il comprend bien que ce qu'il est en train de faire pour le bien de Reuven, c'est tellement difficile à supporter qu'il y a un vrai risque que Reuven pète les plombs et qu'il parte du côté de chez Esav. Il s'est dit, si je le fais juste avant ma mort, alors pour lui, ce sera quand même plus facile. Il va pas rester sous me voir tous les jours, etc. Et après ce que je lui fais, il t'aura pareil. Alors, bon, c'est intéressant, ça veut dire que on comprend très bien, Jacob comprend très bien le côté quasiment insupportable qu'il peut y avoir à entendre des tohachot pareils. Mais en fait, on pourrait mettre un petit bémol là-dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, Reuven, il a bien vu que c'était pas lui le chef, que c'était le roi, c'était Yehuda. Il a bien vu que Jacob, il a nommé Lévi comme Rosh Yeshiva quand ils vont descendre en Égypte, etc. Donc il a bien vu que son père lui a enlevé tout ça. Et pourtant il n'est pas parti. Pourquoi Yaakov il craignait ça? Comme si Yaakov craint la chose, il craint ce qui a été dit, il craint des paroles lui disant je t'enlève ça. Concrètement, qu'il l'ait perdu, c'est insupportable peut-être, mais son père lui a rien dit. Son père lui a rien dit. Il lui a pas dit, je te l'enlève. De facto, il lui a enlevé. Mais il lui a pas dit. Comme si, au fond, ce qui était le plus insupportable, c'est d'entendre son père le lui dire en pleine figure. La tochacha, les paroles sont plus dures que la situation. Puisque la situation, il l'a vécue, Reuven. Et pourtant, il n'est pas parti chez Essam. En tout cas, de là, on apprend qu'il y a un problème avec la Torah. Et Rashi ramène, Mipnei arba dvarim, en mochichin et à Adam, et la samouk le mita. Pour quatre raisons, on ne fait des remontrances à quelqu'un que à la veille de sa mort. Une des raisons, Rashi énumère des raisons, dit par exemple, idée chez Loïe, Mochichou, Bechorez, ou c'est-à-dire, s'il lui fait des reproches, des remontrances, pardon, au moment où la chose se passe, ben il peut, si ça se trouve, il peut être amené à refaire des remontrances parce que l'autre s'est pas vraiment amendé. Et donc, c'est difficile de faire des reproches et encore des reproches, etc. Enfin, je dis reproches, mais en fait, c'est remontrances et remontrances, etc. Et ça c'est aussi difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que dans la mitzvah de Tochacha, le passouk dit Ocheach tochiach tamiterba. C'est-à-dire, il y a une redondance. Ocheach tochiach. Ça veut dire, fais des remontrances, fais des remontrances. Pardon. Et on a, pourquoi il y a cette redondance? Pourquoi cette répétition-là de mots, du verbe, du mot tochacha, pour dire que il faut faire des remontrances à filou, mais à permis, même 100 fois. Donc, on voit très bien qu'on peut faire, non seulement on peut, mais on doit, le cas échéant, faire des remontrances une fois, ça marche pas, encore une fois, encore une fois. Alors, quel est le problème? Pourquoi on dit que, alors, ça a l'air contradictoire. Alors le Maharal et d'autres expliquent qu'en réalité, quand est-ce qu'on dit que il ne faut pas répéter, c'est quand on fait du Tohara longtemps après que ça soit passé. Donc, il faut le faire une fois, c'est tout. Mais sur le en situation, on peut être amené à faire des remontrances et de répéter les remontrances jusqu'à ce que ce soit entendu. Donc, il n'y a pas une vraie contradiction, mais comme c'est difficile à supporter, alors on va faire une remontrance juste avant la mort, sans qu'on n'ait pas, on ne soit pas en situation de devoir le répéter. De même, ça met pas, c'est difficile pour celui qui a reçu les remontrances de croiser celui qui lui a fait les remontrances. Tous les jours tu vas le croiser, ou même tous les 3 jours tu vas le croiser, c'est désagréable, c'est comme si tu refaisais la remontrance. Ok, alors si on fait comme ça, si on le fait juste avant la mort, ben, on ne le croisera pas. Donc ce sont les idées, voilà. Donc voilà, et voilà pourquoi Moshe a fait la même chose que Yaakov. Et en soi, c'est un peu difficile. Parce que Yaakov et Moshe, c'est pas du tout la même situation. Moshe Rabbeinu, il fait des remontrances au clan Israël en tant que clan. Yaakov, il a fait des remontrances individuelles à chacun de ses enfants. Pas du tout la même chose. Il y en a qui disent que les remontrances qu'on aurait reçues juste avant la mort du parent, d'un parent par exemple, c'est insupportable. Donc au contraire, c'est insupportable. Parce que tu vas vivre ta vie avec ça, et donc ça va tout à fait, disons, en tout cas, c'est pas du tout. Ce qui est dit là, c'est pas du tout vraiment intuitif, parce qu'intuitivement, donc la plupart des gens préfèrent avoir les remontrances du vivant plutôt que ce soit la dernière parole que le parent vous ait dite. C'est difficile de... Bon, là, il faut réfléchir, chacun voit. Chacun va, probablement que ça dépend de la sensibilité de chacun, mais... Je crois qu'effectivement, c'est difficile d'imaginer. On se sent plus à l'aise avec dans cette situation-là. Donc ça, c'est le problème de cette offrande tellement décalée. Peux regarder un peu plus loin. Dans le passouk 9, passouk 7, Moshe Rabbeinu nous dit, Va omar alechem, va'etai, les morts. Je vous ai dit, à ce moment-là, les morts, on verra ce mot-là, lo uchal levadi, je ne peux pas seul vous porter. Parce qu'il va dire, Hachem, Elokechem, Irbaetchem, Hachem, votre Dieu vous a multiplié, et vous êtes maintenant aussi nombreux que les étoiles du ciel, etc. Et je vous souhaite de continuer de vous multiplier. Pas que je veux que vous soyez moins nombreux. Mais du coup, je peux pas tout seul porter toute cette responsabilité, etc. Alors d'abord, il y a ce mot les morts ici, on comprend pas ce qu'il fait là. Va omar alechem ba'etayil, les morts. Les morts, c'est, on dit à quelqu'un pour qu'il le retransmette. Il n'y a pas de retransmission ici. Quand c'est Hachem qui parle à Moshe et lui dit, je dis quelque chose pour que tu le retransmettes au Bnei Israël, on comprend les morts. Mais ici, c'est Moshe Rabbeinu qui leur parle. Et il leur dit les morts. Un peu compliqué de d'entendre. Alors Rashi dit que le les morts, Maou les morts, Amar lahem Moshe, l'homme atzmi ani omer lachem, ela mipia kalosh. C'est-à-dire, je ne vous dis pas les choses de moi-même, mais je vous les dis parce qu'Hachem m'a dit de vous les dire. Donc, les morts, ça veut dire, il dit, je vous dis quelque chose que j'ai reçu pour, que j'ai eu comme mission de vous retransmettre. Mais dans l'idée, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est pas Hachem qui lui a dit t'es trop fatigué. C'est lui qui dit je peux pas. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit j'ai pas la force, j'ai plus la force de supporter le clan Israël à moi tout seul. Pourquoi il dit que c'est Hachem qui m'a dit? Alors, il faut lire. Hachem m'a dit de vous le dire. C'est-à-dire que c'est une question qui aurait pu se régler entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, écoute, c'est trop difficile. Hachem dit, OK, alors on va te adjoindre des Sanhedrin, quoi. On va adjoindre 70 personnes, qui vont se joindre à toi. Mais si on avait fait comme ça, alors, si les Bnei Israël ne savent pas, pourquoi? C'est comme si, au fond, Hachem était en train de dire à Moshe Rabbeinu, de dire au clan. Le clan Israël, ils peuvent entendre ça comme Moshe n'a pas bien fait les choses et donc il faut Il faut le remplacer quasiment, ou en tout cas, il faut le noyer dans 70 personnes. Ben, il va être un dans 71 personnes. Donc, ça pourrait apparaître si on ne l'explique pas. Donc, Hachem m'a dit qu'il fallait que je vous dise, pour que vous sachiez pourquoi ça arrive. C'est pas du tout parce que ce que j'ai fait n'était pas comme il fallait, mais parce que j'ai dit que je suis trop fatigué. J'ai demandé en son temps d'être aidé. Et on voit bien que comment s'est passé le changement. Le changement s'est passé, si vous voulez, à Chokhma constante. Ça veut dire, quand Hachem a nommé 70 personnes pour aider Moshe Rabbeinu, il ne leur a pas donné de la chokhma et de leadership, etc. En plus, il a dit, on va prendre chez Moshe Rabbeinu et on va saupoudrer sur les 70 une partie de ce qui a été pris chez Moshe Rabbeinu. Donc ça se fait un chokhma et un leadership constant. Donc, quelque part, on voit bien que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait la force. Hachem lui a donné suffisamment de force. La preuve, c'est qu'on n'a besoin d'ajouter rien du tout. Simplement, il faut répartir les choses. C'est tout. Mais c'est pas que Hachem lui a pas donné la force suffisante pour pouvoir. Non, il avait la force. Et maintenant, lui-même, Moshe Rabbeinu, il pense que c'est trop difficile pour moi, etc. Alors, en soi, c'est un peu compliqué. C'est compliqué que Moshe Rabbeinu dise qu'il peut pas. Et regardez Rashi. Rashi, là aussi, il est très surprenant. Vous l'avez, le Rashi? Efshar, Sheloya Moshe, Yachol Ladun et Israël. Donc, c'est une question que Rashi pose. Est-ce qu'il est possible de penser que Moshe ne pouvait pas juger, c'est-à-dire diriger le clan d'Israël? Et le Rashi dit, Adam sheotziyam mimitzrayim, ve kara lahem et hayam, ve orid et aman, ve igid et tzlav, lo haya yachol ladunam? Rashi dit, c'est pas possible. Cet homme, Moshe, qui les a sortis d'Égypte, qui a fendu la mer, qui a fait descendre la manne, qui a fait descendre le slave, comment s'appelle, les cailles, oui. Il peut pas les juger. Et donc, bien sûr qu'il pouvait. Et là, kach amar lahem. Donc, Moshe, il leur explique. Hachem Elokechem irba etchem. Hachem vous a multiplié. Hachem votre Dieu. Igdil ve'erim etchem al dayanechem. En fait, Hachem vous a fait grandir et vous êtes au-dessus de vos juges. Natal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Natal est à onesh mikem. Venatono à la Dayanim. Les fautes que vous avez faites, elles sont maintenant au compte des juges. Comme si c'était la faute des juges, des gens qui vous ont dirigé, de vous avoir permis ou vous a pas empêché de faire des fautes. C'est eux qui portent la responsabilité. Renamar Shlomo. Shlomo, il dit la même chose. Il dit, Ki mi yuchal lishpot et amcha gadol hazeh. Lui aussi, il dit, mais qui peut juger ton grand peuple? Et il dit, Efshar, mi shekatuv bo. Est-ce que il est possible de penser que celui dont on dit qu'il est plus sage, que le plus sage de tous les hommes, il dit, qui peut juger? Donc, Shlomo, il dit la même chose. En dayané umazu que dayané shar umot. Les juges d'Ibn Israël ne sont pas des juges comme les juges des nations. Les juges des nations, un juge, Shem Dan, de Oreg, ou Makeb, ou Chonek, ou Maté, et Dine, et Dino, Végozel, et Bekartoum. Un juge, s'il se trompe, il tue à tort, ou il impose, il prend de l'argent chez un, à tort, etc. C'est pas grave. En Bekartoum. Ani, im chiyavti mammon, c'est le que dit. Moi, si j'ai obligé, à la suite d'un procès, j'ai obligé A à donner de l'argent à B, et qu'en vérité, je me suis trompé. Je ne veux pas, c'était une erreur. Alors, nefashot ani nitba. Pour moi, ça, enfin, c'est un problème de civil, de l'argent. Mais pour moi, on va me le compter comme un problème pénal. Pour moi, ça devient du pénal. Et je vais devoir payer de ma personne parce que je me suis trompé. Donc, il y a cette idée que, dans le texte, c'est un peu compliqué parce que Rashi explique, Rashi dit que Moshe a sorti les Bnei Israël d'Égypte. Il a fendu la mer. Mais c'est pas lui qui a fait ça. C'est Hachem qui l'a fait, non? Dire une chose pareille, c'est en disant que c'est Moshe qui l'a sorti d'Égypte que les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, quasiment. Pour remplacer Moshe. C'est lui qui nous a sorti l'Égypte. Je crois qu'il faut lire le Rashi un petit peu différemment. Il faut lire le Rashi. Cet homme qu'Hachem a mis sur le terrain pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'est Hachem qui l'a sorti, mais c'est lui qui est sur le terrain. C'est lui qui apparaît comme fondant la mer, etc. Cet homme-là qui est sur le terrain pour juger les Bnei Israël, évidemment qu'il aura la force. Si on l'a mis sur le terrain, on lui a donné la puissance apparente, en tout cas, ou concrète, peut-être réelle, de faire sortir les Bnei Israël, de fendre la mer, etc., ben, Hachem, de la même manière, lui a donné la force de juger le clan Israël. Et du coup, on comprend pas très bien qu'est-ce qu'il veut, Moshe. Moshe dit, je peux pas tout seul, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que vous êtes trop nombreux. Alors on dit, vous êtes trop nombreux et vous êtes trop grands. Ça veut dire quelque part, vous êtes plus grands que vos juges. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez là? Ça veut dire vous êtes au-dessus de vos juges. Au-dessus de vos juges. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les juges qui sont, vous êtes au-dessus, au sens que vous n'avez pas fait de faute. Si les fautes que vous avez faites, elles sont attribuées aux juges. Alors, est-ce que le juge, en quel sens? Ben, c'est lui, quoi. Quelque part, ça apparaît comme si les fautes d'Ebné Israël, quelque part, j'y suis pour quelque chose. Les juges, c'est lui. Pas que lui, mais il fait partie des juges. Qu'est-ce que Rashi veut dire ici? Bon, c'est possible de dire ça. Je crois que ça veut dire, effectivement. Que Moshe, quand il dit ça, c'est quand ça a tourné, quoi. Il y avait une partie de la vie de Moshe Rabbeinu où personne Ce serait permis de critiquer Moshe Rabbeinu. Si quelqu'un avait essayé de critiquer Moshe Rabbeinu, il serait, au moins, il aurait été lapidé à la Makom. Mais après les Meraglim, comme Moshe ne les a pas sauvés, en fait, s'il pouvait pas les sauver parce que c'était déjà un sursis qui est tombé, alors les Bnei Israël, ils ont commencé à être critiques par rapport à Moshe. Et du coup, on voit la suite. Il y a les Meraglim, il y a Korach. Et bon, on voit que il y a des choses qui se passent quelque part. Et Moshe les sauve pas tout le temps. Alors, ils finissent par les sauver, mais il y a quand même 24 000 morts ici, etc. Il y a du monde qui meurt. Donc, quelque part, les choses apparaissent comme si c'était la faute des juges. Moshe Rabbeinu, il le dit aussi à un endroit, il dit, Hachem s'est mis en colère contre moi dans Meriva à cause de vous. C'est vous qui avez commencé toute cette histoire de l'eau, etc. Et du coup, il s'est mis en colère contre moi. Et c'est un peu de votre faute. Et vous, en fait, et quand Moshe Rabbeinu, il parle devant les Bnei Israël, il s'attend à ce que les Bnei Israël disent, mais non, on veut que tu restes, etc. Et les Bnei Israël, ils répondent rien du tout. Ils répondent pas. Il n'y a plus cette voix du peuple, là, qui réclame que Moshe reste, non? Moshe leur dit, voilà, quelque part, je vais disparaître. Et ils pensent que les Bnei Israël, normalement, devraient dire, mais non, on veut pas, on veut que tu restes. Avec tout ce qu'il a fait pour eux, ils s'attendaient à ce qu'ils disent quelque chose de positif. Les Bnei Israël ne bougent pas. Donc, il y a ce problème-là ici qui est pas très... C'est un peu compliqué, cette histoire d'être au-dessus des Dayanim. Alors, cette histoire que Rachid dit, mais pourtant, c'est sûr que Moshe pouvait les juger. Alors, le Maharal de Prague, en gourarié, il dit, c'est caché. Alors, Yitro amar beferouche, navol tibol. Yitro, il a dit explicitement à Moshe, si tu continues de juger tout le monde tout seul, tu vas t'effondrer. Tu vas tomber, tu vas mourir. Azimken, loaya yachol ladunotam. A priori, à vue humaine, effectivement, ce que Moshe faisait, c'était impossible. Et le Maharal dit, Yesh le Taretz, d'Ari Pirusho, peut répondre comme ça, que Ech Efshar, chez le Yuchal Ladunotam, Moshe. C'est la question de Moshe, la question de Rashi. Rashi dit, comment est-ce possible de penser que Moshe ne pourrait pas juger tout le monde alors qu'il les a sortis d'Égypte, etc. Alors, il avait dit, mais on voit bien que Yitro a dit qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas la force. Mais il faut comprendre comme ça. Afalgav chez Loaya Efchar Beder. C'est vrai qu'à vue humaine, c'est-à-dire naturellement, ce n'était pas possible. Sans miracle, ce n'était pas possible que Moshe juge seul tout le clan d'Israël. Mikol Makom ou Efchar Beder Echnes. Mais c'était possible de façon miraculeuse. Aval Yitro amar navol tibol, gamata gam ha'am. Mais Yitro, quand il a critiqué, il a dit, mais tu vas tomber, toi et le peuple aussi va tomber. Bevadai, mitzad Moshe, chez Asan Issim le Israël, Efshar la sot beder nes. On comprend bien que Hachem puisse faire des miracles pour Moshe. Parce que Moshe, il dirige le cas d'Israël et que ce n'est pas possible sans miracle. Alors Hachem va lui faire les miracles pour qu'il puisse diriger le cas d'Israël. Aval Israël, lo yochlou la amod. Mais les bnei Israël, ils ne vont pas tenir le coup non plus. Shem omdim gamken, min la boker adar. Parce que les bnei Israël aussi font la queue du matin au soir pour être jugés par Moshe. Donc eux, ils ne tiennent pas non plus. Vimken, navol, tibol, gamata. Mais en fait, si eux, ils ne tiennent pas, toi non plus, tu ne tiendras pas. Pourquoi? Shekivan, shen, atayachol, ladon, Israël. Beinyanze, est-ce que tu peux pas, naturellement, tu peux pas juger les Israël, si on va seulement d'après les règles de la nature? Az loyaselecha akadosh baruchu, neskal, Hashem te fera pas de miracle. Ki kol hanissim ayu la sot davar l'Israël. En vérité, tous les miracles qui ont été faits pour Moshe, ils ont été faits pour le cas Israël. Vous vous souvenez, on avait dit, par exemple, durant les 38 ans de pérégrination des Bnei Israël, Hachem n'a pas parlé, n'a pas renouvelé sa parole avec Moshe Rabbeinu. Puisque le clan Israël ne méritait pas la parole d'Hachem, donc Moshe n'a pas reçu de parole nouvelle de la part d'Hachem. Hachem ne lui a pas parlé pendant 38 ans. Otsi, donc Moshe Rabbeinu, il était Motsi Otam Mimitsraim, Karalaim Atayam, Aman, etc. Et Kivan Shei Efchar li Israël la Amod Bezé. Mais les Bnei Israël, ils ne peuvent pas supporter cette attente, etc. Azloya Sakadulboku, Nes Bechinam. Donc Hachem ne va pas faire inutilement, gratuitement, un miracle. Le Kachlokashe, Marché Amar Yitro. Et donc, ce que Yitro a dit qu'il ne tiendra pas le coup, ça ne pose pas vraiment de problème. Aval Moshe Amar, lo uchal levadi. Moshe, il a dit, moi, je ne peux pas tout seul. De Tala Hadavar, de Moshe. Il a dit, c'est moi qui ne peux pas. Le car caché. Le riadam que Moshe Yomar, lo uchal. C'est-à-dire, comme Moshe dit, c'est moi qui ne peux pas. Ça, c'est ça qui est faux. C'est pour ça que Rachid dit, c'est sûr qu'il peut. Mais en réalité, il aurait dû dire, le peuple ne peut pas supporter. Donc, ils ne peuvent pas faire la queue du matin au soir. Et pour qu'ils ne fassent pas la queue du matin au soir, ben, il faut qu'il y ait plusieurs personnes susceptibles de les recevoir, de les entendre. Et donc maintenant, si on est 71 à recevoir les Bnei Israël, ben ça évitera de faire une queue du matin au soir. Donc, ce que Rashi veut dire quand il dit est-ce que Moshe ne pouvait pas, c'est évident que Moshe pouvait. Bien sûr que Moshe pouvait. Mais c'est quand il dit je ne peux pas, il apporte, il fait comme si c'est lui qui n'avait pas la force. Pas du tout lui qui n'a pas la force. C'est comme dit le Maharal, c'est le peuple qui n'a pas la force. Et du coup, Hachem ne va pas faire de nes pour Moshe, puisque le peuple, en fait, il suffit de, enfin, il suffit de répartir, de multiplier Moshe, en quelque sorte, de démultiplier Moshe Rabbeinu, et comme ça, le peuple sera servi. Donc, on n'a pas besoin de miracles. Et c'est juste, peut-être, l'humilité de Moshe de dire que c'est lui qui ne peut pas. Alors qu'en réalité, il aurait dû dire, c'est le peuple qui ne peut pas. D'après ce que dit le Maharal. Le peuple ne peut pas, et donc, il y a quelque chose. Alors, un peu plus loin, Pasuk Yud Zayin, Pasuk 17. Parle du fait de juger les Bnei Israël. Lotakiru fanim bamishpat. Kakaton kagadol תשמעו. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא. והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתי. Donc, il donne des instructions aux dayanim. Il n'y aura pas de passe-droit. Vous traiterez les petits comme les grands, les puissants comme les moins puissants de la même manière. Vous les écouterez tous. Vous n'aurez peur de personne. Ki hamishpat le'elokim. Parce que le jugement, il est littéralement le'elokim, il est à Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'il a mis pas les Elohim. Rashi. Rashi dit qu'il a mis pas les Elohim. Mashiata notel mise chez Lokedin. Quand un juge fait une erreur et il prend de l'argent chez A et il le donne à B. Le procès, il dit voilà, A doit cette somme à B. Et si c'est une erreur, si c'est pas juste, alors bien sûr que si le juge s'en aperçoit, il doit réparer. Mais dans l'hypothèse où il s'en aperçoit pas, mais c'est pas juste pour A qu'on lui ait pris son argent, c'est pas non plus juste pour B qu'on lui ait donné de l'argent auquel il n'a pas droit. Alors, qui va régler ce problème si le juge ne s'en est pas rendu compte? Alors, Hachem dit, c'est moi qui vais régler le problème. C'est ça qu'il veut dire. Si tu as fait un hôtel misé chez Lokedin, tu as pris de A alors que tu n'en avais, il fallait pas le prendre, Atamas Keni l'arzirlo. Nimsa, chez Iteta Alai, Hamish. Donc ici, Hachem dit, si tu fais une injustice, c'est moi, dit Hachem, qui vais devoir réparer. C'est-à-dire, c'est moi qui vais devoir combiner les choses pour que A retrouve son argent, ça qui est important. Il n'avait pas le droit, il ne devait pas perdre, et je vais devoir faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, l'argent revienne chez A. Peut-être pas obligatoirement pour le prendre de B, mais en tout cas, essentiellement, lui, il doit retrouver l'argent qui était le sien. Et donc, tu m'obliges, moi, dit Hachem. Un juge qui se trompe, il oblige Hachem à corriger. Et c'est ça, Mishpat Elokim, ça veut dire qu'en réalité, quand tu as fait un faux jugement, c'est en ma défaveur que tu l'as fait, dit Hachem. Ça, Mishpat l'Elohim. Quand tu juges, en vérité, tu juges Elohim. Parce que si jamais c'est faux, c'est Elohim qui va devoir réparer. Alors, c'est intéressant dans l'idée que Hachem va réparer la faute du juge, mais pourquoi il ne fait pas en sorte que le juge ne se trompe pas? D'abord, ça lui reviendrait moins cher. Ah. Préparer, ça veut dire chambouler un peu le monde hein, pour que l'argent revienne chez A. Tant qu'à faire chambouler le monde, peut-être inspire le juge qu'il se trompe pas. Mais ça, non. Ça s'appelle. Ça, c'est intervenir directement, ça ne va pas intervenir directement. Ça voudrait dire que, bien sûr, les juges doivent considérer qu'ils jugent d'après la parole d'Hachem. Donc, eux, ils doivent considérer, comme on dit, Elohim Nisraf Ba'adalkel, c'est-à-dire que les juges, ils doivent comprendre que, considérer qu'au-dessus d'eux, il y a Elohim. Quand ils jugent, dans un tribunal, il y a la présence divine qui est là. Et donc, ils doivent être bien conscients de ce qu'ils font. Vous êtes en train de faire parler Hachem dans cette situation-là. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire, ça nécessite une vigilance de tous les instants pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, c'est ça le savoir. C'est HM qu'on est en train de juger d'une certaine manière. C'est des faveurs. Et puis ensuite, alors il y a cette fameuse phrase. Fameuse phrase, la dernière phrase qu'on a lue ici. Ah, vous la connaissez? Mon cher Rabbi nous a dit, Ve'adavar asher yikshe mikem. Bon, les choses qui sont trop difficiles pour vous, vous juges, si les questions qui vous sont posées sont trop difficiles, à ce moment-là, vous me les apporterez. Regardez Rashi. Akrivun alai, elai. Al davar ze nistalek mimenu mishpat benot slofkhot. D'avoir dit ça, mon cher Rabbeinu ici dit que si les questions sont difficiles, il faut me les apporter. Ça lui a pas, Hachem n'a pas beaucoup aimé. Et à cause de ça, mon cher Rabbeinu ne savait pas, il ne sait pas la paracha des filles de Sophra, de l'héritage des femmes. C'est pas lui qui l'a, pas lui qui l'a reçu, quoi. Ce sont les filles de Sophra qui ont eu le mérite de faire en sorte que cette paracha soit donnée au clan Israël. Et donc, pourquoi il n'a pas Donc, il y a deux choses. Il y a, elles ont un mérite, et lui, il a eu un démérite, qui fait que c'est pas par lui que c'est arrivé. C'est arrivé par elle. Et pourquoi c'est pas arrivé par lui? À cause de ça. Parce qu'il a dit les choses difficiles. Donc, c'est comme si, il y avait une espèce d'orgueil, en fait. Ça colle pas du tout avec le personnage Moshe, qui est d'une humilité incroyable. Il la Torah elle-même. Mais là, il dit quelque chose qui, ça pardonne pas, visiblement. Ça n'a pas pardonné. Donc, il y a une paracha qui lui échappe, en quelque sorte. Au sens où, c'est pas lui qui l'amène au monde, cette paracha, ce sont les filles de Sophron. Et non seulement c'est arrivé à Moshe, mais regardez la suite dans Rashi, Vechen Shmuel Amar Shaoul, Anochi Yaroé, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Chayecha Sheani Modiacha, Sheena Taroé, Vematay Odio, Yoshebo Limshoch et David, Vayaret El Yom, Vayomer Ach, נגד השם בשיחור, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אמרת אנוכי הרואה, אל תאבד אל מראהו. La même chose, c'est arrivé à Shmuel. Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est superstar. Hein? Shmuel, c'est aussi grand que Moshe Aaron. C'est Shmuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la dans la carrière de ouais, au début de la carrière de Shmuel, il y a une histoire. Shaoul, il recherchait les ânesses de son père qui s'était égaré, et il a rencontré Shmuel la Navi. Et bon, et Shmuel, il lui a donné sa carte de visite, et sur la carte de visite de Shmuel, c'était marqué Shmuel Roé. Roé, c'est-à-dire visionnaire, c'était jusque-là, les prophètes, ils s'appelaient Roé. Après, ils s'appellent Navi. C'est la même chose. Oui, c'est le visionnaire qui voit. Navi, c'est celui qui parle. Mais bon, c'est la même chose. Et donc, sur sa carte de visite, il a écrit prophète, quoi. Hachem a dit, tu te prends pour un prophète? Je vais te montrer. Et Rachir amène. Quand est-ce que Hachem lui a fait la démonstration qu'il n'était pas un prophète? Vous connaissez l'histoire. À un moment donné, Hachem a ordonné à Shmuel d'aller oindre David. Il lui a pas dit David, il lui a dit, il va aller oindre un des fils de Ishaï. Et Ishaï, en dehors de David, il avait 8 fils. Alors Shmuel est arrivé chez Ishaï et il a dit à Ishaï, convoque tes fils. Donc Ishaï a convoqué ses 8 fils. Il n'a pas convoqué David. Et Shmuel est arrivé, il a vu Eliab, il a vu l'aîné de Ishaï. Il a dit, ah, quelle prestance! On voit celui qui est, on voit très bien qu'il est fait pour être roi, etc. Alors Hachem lui dit, t'as cru que t'étais un visionnaire, là, un voyeur? Arrête de t'occuper que de l'extérieur, vois pas les gens. Et alors la démonstration, elle se continue parce que bon, c'est pas le premier. Le deuxième, il a commencé à parler, c'est le deuxième, etc. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, là, il est sûr de son coup, quoi. Il ne peut pas se tromper. J'aime bien, c'est pas lui. Alors, j'imagine que tout le monde devient blanc à ce moment-là, pas. Et Shmuel se tourne vers Ishaï, et il dit, qu'est-ce qui se passe? T'as encore un fils? Alors, Ishaï, il avait encore un fils. Ce fils, c'était David. Mais David, il a une conception particulière. Vous savez probablement. Ce Ishaï, il fait partie des trois personnes, trois personnes qui ne sont morts que pour faire comme tout le monde. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas fait de faute. Bon, il a fait tout va. Parfait. Comme tous les hommes sont mortels, alors ils sont mortels, ils sont morts aussi comme tout le monde. Mais ce Ishaï, à un moment donné, sur ses vieux jours, il en a eu marre de sa bonne femme. Et il avait une servante et il s'est dit que bon, il pourrait peut-être bien aussi avoir un rapport avec une servante. Donc il a convoqué la servante dans la grange attenante, là. Et la servante, elle était de mèche avec la femme de Ishaï. Donc, elle est entrée ostensiblement dans la grange. Donc, Ishaï l'a vu entrer. Il a attendu un peu pour entrer lui aussi dans la grange. Mais entre-temps, elle est sortie par l'autre porte. Et c'est sa femme qui est entrée. Et Ishaï est entré. Il a eu des rapports avec cette femme. C'était sa propre femme. Il s'en est pas rendu compte. Et donc, ensuite, quand sa femme était enceinte, il a pensé que c'était un mamzer. Il savait qu'il n'avait pas eu de rapport avec sa femme. Maintenant, sa femme est enceinte. Donc, il a considéré, ensuite, quand elle a accouché de David, il l'a quasiment considéré David comme un mamzer. Comme si sa femme avait eu un rapport avec quelqu'un d'autre que lui. Puisque lui, il n'avait pas eu de rapport avec elle. Et donc David, il était le, on l'envoyait, c'est pas dans les alpages, c'est pas dans les Alpes, mais c'est lui qu'on envoyait garder les troupeaux, quoi. Et donc on a convoqué David aussi. Et quand il arrive, donc Shmuel, quand arrive David, il sait que c'est lui Hachem a choisi, puisque les autres on les a éliminés. Et c'est lui, et on lui a dit que celui qui devait oindre, c'est un fils de Ishaï. Donc il sait que c'est lui. Arrive David, il n'est pas très grand, il est roux. Alors, moi, ça lui échappe, mais c'est Essav. C'est un roux comme Essav. Alors Hachem lui dit, oui, c'est... Seulement il a de beaux yeux. Beaux yeux, c'est bon. C'est quoi? Hazal, nos yeux, ça veut dire qu'il respecte la halakha. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un violent, etc. Il va s'imposer, il va faire la guerre, etc. Mais il respecte la Donc là, tout ça, c'est l'histoire de Shmuel. Enfin, c'est raconté à cause de Shmuel. Parce que Shmuel aussi, il y a des choses que Hachem ne supporte pas. Quand Moshe Rabbé nous dit, c'est difficile à porter, apportez-moi ça. Shmuel, il dit, je suis un prophète. C'est incroyable. Ils sont tout ça. Mais il faut pas le dire. Quand tu le dis, c'est, Hachem ne supporte pas qu'ils le disent. Ça touche au problème de qu'on avait soulevé au tout début, où les paroles, c'est pire que les actes. Pour Réhouven, on avait dit, d'entendre son père le dire, c'est pire que de le vivre. Son père lui dit, je t'enlève tout ça et ça et ça. C'est pire que de le lui enlever concrètement, petit à petit, mais il n'est pas parti chez Esav. Mais s'il le lui avait dit, si Jacob le craint, c'est qu'il y a une raison de craindre. C'est pas, Jacob, il n'a pas craint ça, comme ça, en club de blue. C'est pas n'importe quoi. Donc là, on a un ensemble d'éléments qui sont dits de façon assez forte sur par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors, le Ahmed Davin, il a une fuite complètement différente, mais je voulais voir avec vous sur le Loukhal Levadi, le Loukhal Levadi, cet être-même. Quand mon cher Abbé nous dit, je ne peux pas, moi tout seul, vous porter, alors le Ahmed Davin, il dit comme ça, Aïnou milou itzorchechem, c'est-à-dire, je ne peux pas remplir tous vos besoins, enfin combler tous vos besoins. Quand Cherissa emmène et Tayonek, je ne peux pas vous porter comme on porte un nourrisson, comme le nourricier porte le nourrisson en quelque sorte. Venez Noach le Gadel Yonek Shenigrar Achadat Aouman. C'est plus facile, effectivement, de s'occuper d'un nourrisson qui suit complet, enfin, du nourrisson, même, du dépendant, en quelque sorte, dans la mesure où il suit le maître, il suit le nourricier. Mevin, Yonek. C'est celui qui, le nourricier, il comprend les besoins de nourrisson et il le nourrit de cette manière-là. Vioter Misha Ouman, Mevin, Enayonek Mevakesh. Et le nourrisson, il ne demande pas plus que ce que le nourricier comprend de ses besoins. Yonek Meshunot, Midata Omer. Mais quand le Yonek, quand le nourrisson, enfin, il pense différemment du nourricier, il prend le mot nourrisson, c'est pas obligatoirement un enfant, mais c'est la relation entre Moshe Rabbeinu et le clan Israël qu'il appelle de cette manière. Enaouman yachol lissa masao. Alors, du coup, le nourricier, il peut pas porter le nourrisson parce que le nourrisson, il veut toutes sortes de choses que éventuellement le nourricier ne peut pas lui donner. Car Noach, le gadol ador, de la même manière, le gadol ador, le chef de la génération, Ça lui est possible. Lissa, Massa, Tzibour, que chez Laem, des hautes Meshunot, Idatamani. On peut les diriger quand ils sont d'accord. Ils n'ont pas des opinions complètement différentes du chef de la génération. Mima, chez Oumévin. C'est-à-dire, ils sont d'accord avec ce que lui, il comprend. Maskin. Maché adore Nisrach, le Kach Mioter. Lui, il comprend ce que la génération a vraiment besoin de façon essentielle. Aval Keshiesh Laem Deot Meshunot. Mais quand, dans le peuple, il y a toutes sortes d'idées saugrenues ou enfin, différentes de avec Kol Echad Lomer Kach Nisrach Liot, et chacun dit, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, En gadolador yachol lissa masad. Même le gadolador, il peut pas. Il peut pas les porter. Il peut pas les diriger. Mais Zehu sheochiach Moshe et ador. C'est ce que Moshe a dit. C'est une tochacha. Il leur fait des remontrances. Shegam az bechorev. Parce que même au Sinaï, evin shedeotehem meshunot mideotav. Moshe Rabbeinu a bien compris que même au Sinaï, ils ne pensaient pas tous comme lui. Ils n'étaient pas tous d'accord de suivre Moshe Rabbeinu. Zéasipour, il y a le Moussar, chez Yavo Acharkach, Midvar Meraglim. Donc ça, c'est arrivé jusqu'à l'histoire du Meraglim. Chez Ouikar, Tochacha le Inyana Talmud. Parce que finalement, l'histoire des Meraglim, c'est l'essentiel des reproches, en fait, des remontrances, en fait. Puis voir le Alan, de Bakashatam, Mitrila, la Meraglim, Ayam Mishum She'enam Rotsim Likanes l'Eretz Israël, Beder Nisi, Ela Beder Hateva. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Bnei Israël ne voulaient pas, les Meraglim, ne voulaient pas entrer de façon miraculeuse dans l'Eretz Israël. Ils voulaient entrer naturellement, ils voulaient entrer comme une conquête ordinaire, comme s'ils étaient un peuple ordinaire. Vezei Gia Mishum, Sheloayu Nigrarim, Achardat Moshe, le Gamre. Et ça, c'est parce qu'ils ne voulaient pas suivre complètement Moshe. Mishumachi Afalgav, de Beodam Bechorev. Bien sûr, quand ils étaient encore au Sinaï, ils n'ont pas pensé à envoyer des Meraglim en Eretz Israël. Ça aurait été plus simple, ils étaient encore tout près, quoi. C'est pas parce que, s'ils n'ont pas envoyé, c'est pas parce qu'ils étaient d'accord avec Moshe Rabbeinu complètement. Et là, Mishum She'az, parce que eux-mêmes à ce moment-là, ils pensaient que on peut se reporter, on peut faire confiance au miracle, on peut y aller de façon miraculeuse. Aval iayu az nigarim achardat Moshe, belo lev, mais s'ils avaient vraiment été d'accord avec Moshe. Sérieusement, vraiment. Chou, l'Oayou, Koshvim Deot, Imroim, Lissamech Alanes, Olo. Donc, ils n'auraient jamais développé cette idée d'entrer différemment en Eretz Israël que la façon dont on chez. Ça veut dire, au Sinaï, il y avait déjà quelque chose, mais ils n'ont pas pensé à envoyer des Meraglim. Mais il y avait déjà, ils étaient déjà pas d'accord avec Moshe. Complètement. Seulement, ils ont pensé, ok, peut-être entrer en Eretz Israël de façon miraculeuse, ça pourrait encore aller. Mais ils n'ont jamais envoyé des meraglim à ce moment-là, mais ce ver qui était dans le fruit, en quelque sorte, il a donné les meraglim en son temps. Et c'est ça que Moshe dit quand il dit, je ne peux pas, moi, tout seul, parce que comme vous êtes très nombreux, ça veut dire en vérité, vous avez toutes sortes d'opinions différentes les uns des autres. Je ne peux pas vous diriger. Pas possible. Et Hachem vous a multiplié de kohot. Vous êtes que kohomé Hachamaïm Larov. En qualité, vous êtes Yafalgam, Shiloya Kol Dor Amidbar, Gdolé Arerech. Bien sûr, toute la génération du désert, c'était pas tous des tzadikim, c'était pas tous des gens de valeur. Et Kolmakom Ayu, il y en avait plus que dans les autres générations. C'est ça la robe. Mais un robe, il n'y avait pas du tout tout le monde. Pas tout le monde était parfait. Il y avait des gens qui étaient très très bien, très très. Il y avait commun des mortels. Alors, mon cher Abbé nous dit, mais la critique que je fais, c'est pas que je voudrais qu'il y en ait beaucoup, vous soyez moins nombreux, etc. Qu'Hachem vous bénisse, etc. Tout ça. Mais moi maintenant, je peux pas le porter tout seul. Il faut que l'Ochal le va dire. Chez ou massa anagotaklal de milut tsochehem, si on, il faut porter le peuple et satisfaire tous leurs besoins, là-dessus, je peux pas. Je peux pas y arriver. C'est trop. C'est trop parce que on peut pas faire face à une trop grande multitude d'opinions où chacun veut les uns ceci et les autres cela, etc. C'est pas possible. Donc, effectivement, on va avoir des gens différents pris dans chaque tribu. Quoi, vous savez, on a choisi les 70 membres du Sanhédrin. On a pris 6 personnes de chaque tribu. Ça fait 72. Après, on a tiré au sort. On devait tirer au sort 70 de 72, quoi. Parce qu'il y en avait 2 de trop. Mais il y en a 2 qui se sont portés volontaires. Ils ont dit, mais nous, on est d'accord d'abandonner. Il y a une telle. C'est Eldad et Medad, par la suite, qui prophétisent. Eux, ils étaient dans les 72. Ils ont dit, mais nous, on ne tient pas à être dans le Sanhédrin. Voilà, on s'arrêtait là.